faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
Why I walk and talk this way?
There's a war going on outside.
Great war.
Salut à tous, bienvenue dans la deuxième émission de la quatrième ou cinquième saison des Roquets. Tiens, je suis déjà perdu quoi.
Cinquième
saison des Roquets. Alors là, je crois qu'on vient de battre le record d'occupation du studio. J'ai compté 17 personnes dans le studio et c'est pas des blagues.
Est-ce, voilà. Est-ce que tu as compté les bébés?
Oui, 17, dont 2 bébés.
Bah, plus de bébés.
Non, ce sont des personnes s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, nous venons d'entendre Amanda qui rentre de vacances, qui fait sa rentrée au Roquet. Elle n'était pas là la première fois.
Hola.
Salut, hola.
Ouais.
C'est du portugais ça?
Bien,
d'accord, oui. La bonne élève du groupe Katia.
J'ai pas été virée.
Pourquoi? Mais non, il fallait pas.
C'est
bah non,
long.
Si on te vire, qu'est-ce qui nous restera quoi? Des bras cassés quoi. Le vrai journaliste avec nous, Benjamin.
Bonjour, du coup, vu qu'on a 17 personnes dans le studio, je pense qu'on bat aussi le record d'audience des Roquets.
Ah ouais. Et alors Romain qui est là, Romain.
Salut.
Salut. Alors Romain, la plus grosse partie de Romain, 99,99% de Romain sont là. Il manque un petit morceau, hein, parce qu'il faut dire que Romain des fois, de temps en temps, se blesse. Donc aujourd'hui justement, on a mis toute une équipe médicale autour de lui, donc il ne peut, parce que bon, CFN n'est pas assuré pour les coups et blessures. Donc voilà. Et vous l'aurez pas compris parce que c'est obscur ce que je dis, mais c'est une émission spéciale santé et donc les on est 4, 5, donc les 12 personnes, il y a les bébés, enfin je sais plus, bon, beaucoup de personnes autour de nous sont donc l'intersyndicale unifiée de l'hôpital de Rodez, qui sont pas contents, qui sont mobilisés en ce moment, et ils vont nous raconter pourquoi, qu'est-ce qui les a mis en colère. Pour éviter le grand moment de solitude de la première émission, je vais me présenter, puisque la dernière fois personne ne m'avait présenté, ici c'est Guillaume, le roquet, voilà.
Bienvenue et Guillaume.
Merci, oui, tout le monde aura compris, je ne suis pas intégré dans cette émission et que les gens ne me parlent pas en dehors de l'émission de radio. Voilà. On va faire un tour de table. J'ai noté que nous avons Daniel à ma droite. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons David.
Bonjour.
Nathalie à côté de moi, qui a la voix aussi cassée que moi.
Bonsoir.
Bonsoir. Voilà. Rose.
Bonjour.
Bonjour Rose. Laurent.
Salut.
Christine, c'est ça?
Bonsoir
Christine. Et Franck.
Bonsoir.
Voilà. Et derrière, on entend Leïla. Bonjour Leïla. Enfin, bébé Roquette, hein, qui est derrière nous. Bonjour Miss Roquette, j'ai oublié de... Voilà, c'est la première fois que les présentations sont aussi longues quoi, dans l'émission.
Merci, au revoir.
Allez, parmi les invités peut en... deux phrases nous dire pourquoi vous êtes là. D'abord parce qu'on vous a invité, mais pourquoi on vous... Qu'est-ce qui se passe? Daniel, il y en a qui te montrent du doigt, c'est pour ça.
Ouais, c'est toujours comme ça.
Et oui.
Alors pourquoi on est là? On est là, oui, parce que vous nous avez invités, je vous remercie. On est là parce que peut-être que vous avez pu remarquer que l'hôpital en ce moment, il n'est pas en forme. On a une visite de certification en ce moment, donc on en profite pour faire un peu faire voir un peu ce qui ne va pas. Alors sérieusement, c'est surtout des problèmes d'effectifs, des problèmes de conditions de travail et du retentissement que ça a sur les personnes dont on a à s'occuper. Donc je pense que le camarade a peut-être pas intérêt à venir à l'hôpital en ce moment pour se faire soigner, quoi.
Le camarade, c'est Romain.
C'est
et
Romain.
En fait, on va vous expliquer.
Oui, c'est vrai.
Il a juste un petit bout de doigt manquant, semble-t-il. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des allusions, en fait.
Il est tête en l'air, il a perdu un morceau de doigt. Voilà.
Ça va. Ça s'est encore assez bien passé parce que le personnel garde la banane, ouais. Et qu'ils sont assez, ouais. Qu'ils sont très professionnels.
Mais
c'est vrai qu'on voit qu'il manque, ça manque de monde, quoi.
Méfie-toi quand même parce qu'on a un DRH qui mord.
Ouais. Ah ben c'est lui d'ailleurs, oui, c'est.
Bien. Alors il y a des tracts qui circulent, tout ça. OK, bon, vous l'aurez compris, ça va être une émission spéciale hôpital de Rodez. On voulait faire une émission spéciale santé, là voilà. Mais en attendant, on va faire un petit tour de l'autre côté de l'océan Atlantique et Amanda va nous donner des nouvelles des élections américaines, c'est ça, j'ai compris?
Bah oui, c'est ça, il ne
Allez,
reste que un mois avant le jour
de
la grande décision qui sera prise par les peuples américains. Et donc, je vous ai préparé un petit truc.
Allez, on t'écoute.
Je vous présente Melanie Austin, 52 ans, brune, bonne chrétienne. Elle habite dans la même maison délabrée depuis sa naissance à Brownsville, Pennsylvanie, où, contrairement à son nom, 90% de la population sont les gens blancs. Son père était mineur. Brownsville aura connu le développement des industries lourdes, maintenant délaissées depuis des décennies. Miss Austin est sans travail. Comme une personne sur trois à Brownsville, elle vit sous le seuil de pauvreté. Elle passe sa journée à la maison, elle gobe des antidépresseurs et elle squatte Internet. Elle a plus de 2000 amis Facebook et 1000 followers sur Twitter. Cela fait longtemps que son cerveau est anesthésié par les cachets et flotte paresseusement dans son liquide cérébral, comme flotterait paresseusement Guillaume sur un fauteuil gonflable à la piscine du camp naturaliste auquel il est abonné en secret.
Naturaliste.
L'influent.
Bon, ceux qui collectionnent les papillons, peut-être.
C'est
d'accord,
cela.
D'accord, oui, c'est exactement ça.
L'influent journal The Washington Post a récemment publié un entretien avec Miss Austin parce qu'elle fait partie d'un réseau de personnes qui comprennent parfaitement les théories complexes et les messages subtils. Elle a réussi à devenir, par exemple, le vrai sexe de Michelle Obama.
Masculin.
La vraie orientation sexuelle du président Obama.
Homosexuel.
Et le vrai statut des enfants Obama.
Adopté.
Selon Melanie Austin, l'organisation Daesh est d'ailleurs une création du célèbre président musulman Barack Obama. Mmh. Son soutien à la candidature de Donald Trump est évident là, non? Même s'il serait facile de se moquer de cette femme à cause de son manque d'intellect, cela serait cruel et surtout pas très original. Dès le 18e siècle, la société américaine considérait déjà les pauvres plus blancs comme Miss Austin, comme des bouffons. Même l'illustre Benjamin Franklin dénigrait les habitants des milieux ruraux de Pennsylvanie en les appelant les déchets de l'Amérique. Ridiculisés, méprisés, ces pauvres plus blancs se tournaient souvent vers la religion pour donner du sens à leur vie. Et quand cela ne suffit pas, ils tombent dans l'utilisation de drogues et la violence familiale. Dans un pays sans infrastructure sociale adéquate, ces personnes restent bloquées sans accès aux soins, sans travail et sans issue. Bon, avant 2016, aucune personnalité politique ne s'est jamais adressée directement à ce public. Selon ces pauvres plus blancs, les démocrates veulent aider les noirs, les immigrés, les étrangers, mais jamais eux. Ça cultive la jalousie, les enfonçant encore plus dans les croyances radicales, les réflexions racistes, xénophobes et homophobes. Ils s'identifient comme les patriotes d'origine et votent donc républicains. La candidature de Donald Trump leur plaît. Ils voient en lui un candidat qui parle franchement et qui communique enfin la frustration qu'il ressent. Lui aussi, il est ridiculisé, méprisé et rejeté par le reste de la société bien-pensante. Et quand Donald Trump leur dit « Je vous aime !»« I love you !» en fin de discours, entre guillemets politique, ben, ils ne peuvent que le croire. Cela serait donc réducteur de traiter Miss Austin de stupide. Nous sommes juste en présence d'une adulte en déséquilibre mental avec des tendances violentes et des croyances absurdes. Et l'État ne propose pas de solution pour les Américaines comme elle. Les portraits des supporters de Trump ne me mettent pas en colère, mais me rendent profondément triste. La grande œuvre de l'échec social de la gouvernance américaine est composée de milliers de portraits similaires. Je ne les méprise pas, mais je reste troublée. Parce que je sais que le 8 novembre prochain,
jour des élections présidentielles américaines,
je vais penser différemment. Pendant une journée entière, je vais espérer que tous ces pauvres ploucs blancs soient aussi paresseux et stupides qu'on le dit. Et que se lever les fesses pour aller voter leur semble une corvée insurmontable.
Merci Amanda.
Donc ça c'était juste un petit... j'ai lu l'entretien avec Miss Austin dans le Washington Post. Et bon, d'accord. En bref, elle est pas du tout, elle ne ressemble pas du tout au profil du supporter de Bush qu'on a vu avec Romney, qu'on a vu avec McCain. Et je pense que c'est intéressant de montrer la diversité et d'où ça vient en fait. Ces peuples-là qui croient en lui. Parce que tout le monde se dit mais ils sont qui en fait ces supporters? On se comprend pas. Et j'ai lu ça, et je dis ah tiens.
Toi tu Amanda tu as voté?
Ah oui,
ouais,
j'ai voté la semaine dernière par courrier.
D'accord, ok. Bon.
Ouais. J'ai voté Hillary Clinton.
C'est pas vrai. Non.
C'est pas très difficile de le dire à la radio, mais bon.
Bon. Voilà, en France, on appelle ça le vote utile, non? C'est un peu ça aussi, toi?
Ouais.
Ouais, bon. Ok, bah youhou, voilà, super. Bon.
Non, on va voir.
Bon, on verra, ouais. Oh, il est en train de descendre dans les sondages, là, Pépère.
Oui.
Bon.
Mais de toute manière, s'il gagne, je pense que ça sera vraiment un signe que la plupart du monde aux États-Unis, il ressemble plus à ce type de personne, ouais. À Miss Austin, que à moi ou tout le monde qu'on connaît. Enfin,
c'est vrai que souvent on s'identifie aux Américains parce qu'ils sont blancs, on pense que c'est des Européens, mais finalement ils pensent pas comme nous aussi, quoi.
On n'a pas vécu les mêmes choses. Ouais, voilà. Du tout. On ne vit pas les mêmes systèmes, on n'est pas les mêmes accès, les mêmes ressources, et voilà.
Voilà. Bon, on en reparlera. Ça, je pense, ça nous fera plusieurs chroniques à mon avis au mois de novembre. C'est quand les élections novembre là.
Mais je l'ai dit dans ma chronique, tu n'écoutais pas en fait.
Mais si, mais oui.
Oh, il me sourit tout au long du truc, genre ouais, c'est trop bien et tout, continue.
Bon, eh ben on va passer de la musique et c'est Benjamin qui a retrouvé son morceau de musique de la dernière fois.
Oui, bon alors du coup c'est moins drôle 3 mois après, mais je vous promettais en réaction à la chronique de la fin de saison dernière un morceau qui ne plairait pas au rocker. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit bon je vais mettre du rap parce que la plupart ils aiment pas ça. En plus ils critiquaient Julien pour ses goûts musicaux. Donc je vous ai mis un morceau de Lunatic. Ça vous dit sûrement rien, mais non. Si je vous dis que Booba est un des membres de Lunatic, ça vous dit peut-être quelque chose. Voilà, ouais. Je vous laisse apprécier.
Quel
bisous.
Bonheur.
On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Nous en la même haine, haute scène.
Illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique,
haute scène. C'est quand un problème, quand on train du système va 200. Quand j'en ai marre, je vois mon argent dans la marche. Avec Ali Bouba le flingue et son chargeur, j'entraide défoncé. Et je m'en bats les couilles tes conseils. Y'en a qui shootent, moi c'est de shit et sauce arachide. Échec banal, je tape ma galère à la machine. Exo et Rhypnol chez le rejeton. Qui viennent te dire que la terre est belle, ronde comme un caston. Y'a des forts et des faibles, hardcore et des fables. Les roses c'est fabuleux, mais quand t'arrêtes faut redécorer. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Pour ça qu'on pleure tous à la naissance. Et en plus ils veulent qu'on dégage. Après ces fils de pute s'étonnent quand y'a des clous dans les bouteilles de gaz. Tellement de merde, si peu de toilettes. Le 9 mars 200, avec Kaeli mon sens à 3 lettres. La cam parle, cette valtrin qui fait des murmures. Cousin, mais ton gilet passerin, car si tu meurs, je meurs. One L-O-V-E, je veux pas te voir mon aura clos. Négro mélange ta coca de l'eau. On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Cousin, la même haine,
haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique.
Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Nous avons la même haine,
haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne, lunatique,
haute scène.
Plus on avance et plus les épreuves viennent. Là que les vraies têtes retiennent les liens et que les traîtres font en sorte que l'unité ne reste qu'à moi une idée. Peu importe que tu sois seul ou au comité, on finira tous sous le sol. Pour l'instant au-dessus, insiste à faire les choses bien. Le but final est céleste. Cause pour les miens, soldats universels vivant dans un environnement funeste, néfaste. Le béton est comme une tombe pour les faibles. Beaucoup de bouffons veulent bluffer. Vive de fable, j'acte trop. Agir ou mourir est la règle, accro de violence. Les faits divers s'alternent comme le jour et la nuit. La rue materne, la délinquance, le crime paix. Loin d'arriver à son terme. International langage, celui des armes. Du ministère de la défense au ministère vendeur de défense. Tu pour des intérêts, la mort n'est pas un mystère. Le sang désaltère, le soif de vengeance tiré en terre. Qui est l'homme? Celui qui prend la vie ou la donne. Celui qui s'élève pour le paradis béni. Ou celui qui s'enfonce vers l'enfer damné. Haute scène.
On n'est pas du même groupe sanguin, pas du même crew. Nous avons la même haine.
Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique.
Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Nous avons la même haine.
Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique.
Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Nous avons la même haine.
Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique.
Haute scène. Pas mon groupe sanguin, pas du même crew. Nous avons la même haine.
Haute scène. Illégal comme les armes et la cocaïne. Lunatique.
Haute scène.
Groupe illégal. Groupe sanguin légal. Haute scène.
Les roquets rouges, ils crient, ils mordent et ils s'enfuient. Du rock et du rouge.
Donc vous êtes toujours sur CFM 107.9 et vous pouvez nous retrouver en podcast. Toutes les émissions de CFM, vous pouvez les retrouver en podcast sur cfm.fr. Et là, c'est les Roquets Rouges. Les Roquets Rouges qui ne sont pas tout seuls. Nous sommes donc avec le Front Unisyndical. Moi, j'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est s'il y a un vrai nom. Enfin, l'intersyndical de l'hôpital de Rodez. Alors, il faut que je raconte quand même une anecdote. Il y a Romain, il ne sait pas où se foutre parce qu'il essaie de fumer sa clope. Et dans une pièce à côté, il y a des bébés. Dans l'autre, il y a du personnel médical. Il ne sait pas où est-ce qu'il peut allumer sa cigarette là. Il culpabilise des deux côtés. Voilà. Bref, bon, alors ça ne passe plus entre l'intersyndicale et la direction. Moi, on a découvert une pétition en ligne sur les réseaux sociaux. Elle en est à combien cette 9000 signatures? Parlez bien dans les micros, ouais.
9000.
9000 signatures, me dit Laurent, hein, c'est ça.
Plus.
Allez, vous êtes allé sur le marché.
Plus le marché et plus le coiffeur. Ah. Il faut bien le dire.
Ça marche bien les coiffeurs, ouais.
400 en plus.
Ah bah, ça marche bien, dis donc. Oui.
Il y en a 400, oui.
Il y a des coiffeurs qui nous écoutent, je sais, CFM. Salut à eux. Remarque qu'ils sont fermés à 8h du soir. Bref. Bon, et donc il y avait Laurent, c'est ça, Rose qui voulait. Alors on va. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Et vous avez une déclaration donc commune que vous vouliez nous lire. On va commencer par ça. Et après on en discute.
Alors moi je parle pour les restructurations de services ont diminué le nombre de personnels dans les équipes de soins administratifs techniques. La charge de travail est donc plus lourde. Le personnel est tellement restreint qu'il ne parvient plus à se détacher pour assister aux formations obligatoires, c'est-à-dire gestes d'urgence, qu'il est très difficile de poser des congés, même lorsque l'équipe est au complet, faire fonctionner les services est donc devenu très difficile.
Mais en plus de cela, la direction a pris une série de décisions qui réduisent considérablement ses possibilités de remplacer les agents absents. Elle a supprimé l'équipe de suppléance constituée de soignants dont le rôle était de remplacer les absences en service de courte durée, alors qu'elle prétendait remplacer cette équipe par des agents embauchés au mois. Elle a fait tout ce qu'il fallait pour rendre l'hôpital inattractif aux professionnels. Elle a supprimé aux aides-soignants contractuels une prime liée à la reconnaissance de leur diplôme. Cette prime comptait pour 10% de leur salaire et faisait la différence entre une personne diplômée d'État travaillant auprès des patients et les agents de service qui travaillent à l'entretien des locaux. De nombreux étudiants en soins infirmiers sont venus nous rapporter que notre DRH était intervenu pendant leurs cours pour les décourager de postuler à l'hôpital de Rodez. Constat, aujourd'hui, le personnel est épuisé d'être constamment rappelé chez lui et de revenir travailler gratuitement sur ses jours de repos. Il est en colère de constater que malgré tous ses efforts, il n'a plus les moyens de fournir à la population un service de qualité. La direction devrait se remettre en question. Sa politique a fait exploser le nombre d'arrêts de travail. Elle a fait fuir une partie du personnel qui ne se retrouvait plus dans cette façon de pratiquer leur profession. Laissez-nous exercer notre métier et notre vocation de soignant dignement.
Merci. Alors Benjamin avait une première question déjà à vous poser.
Une question assez générale. On connaît le contexte national de baisse budgétaire un peu dans tous les domaines. La santé est particulièrement impactée. Mais quand on écoute les revendications, on a l'impression que c'est vraiment un problème plus local que ça, quoi. C'est pas simplement les baisses budgétaires nationales qui vous mettent dans la rue. C'est plus que ça. On a l'impression qu'il y a aussi une dimension locale. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est vraiment simplement lié au coût budgétaire au niveau national ?
Qui veut répondre ?
Daniel ? Il y a un contexte national. Hein, tous les hôpitaux connaissent des plans de retour à l'équilibre, des restrictions budgétaires, des restrictions personnelles. La cerise sur le gâteau à Rodez, c'est qu'on a une équipe de direction qui ressemble plus à des flics qu'à des directeurs d'établissement. Ils sont dans le contrôle permanent, dans le dénigrement permanent et de leurs cadres et de leurs médecins. Et bon, c'est à force, c'est pénible, quoi. Hein. Et sachant qu'eux, ils font rien, quoi. Enfin, ou ils se cachent bien pour faire quelque chose.
La dernière grève de l'hôpital date de quand ? Quand est-ce que l'hôpital de Rodez a fait grève ? 2015. La dernière fois.
Non, l'an dernier,
En 2015, où on avait fait une marche avec...
Oui, non, mais un vrai mouvement comme là, on vit actuellement.
Oui, en 2015, hein. Un gros mouvement. On était même quand même venus, on avait fait appel à la population, où on avait fait une marche autour de la ville.
Oui, on s'en souvient, oui.
Et c'était une restructuration du pôle médical, à l'époque, qui avait supprimé déjà une trentaine de postes. Et en début de cette année, ça a été le secteur de la chirurgie qui a été touché avec ses restructurations.
Là, c'était une manifestation, mais une vraie
grève. Alors, justement, qu'on soit d'accord, là, vous êtes, pour l'instant, vous n'êtes pas en grève encore, mais il y a un préavis de grève, si j'ai bien compris, pour bah, le jour où on sera diffusé, c'est le mardi 11 octobre, c'est ça ?
Mardi 11, là, nous sommes dans les 5 jours de négociation avec la direction.
Franck, tu voulais dire quelque chose ? Tu voulais préciser ?
Oui, cela fait effectivement déjà 2 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Mais ce qui est devenu particulier, c'est que maintenant tous les médecins et cadres soutiennent les équipes paramédicales. Et nous avons également appris que les cadres et les médecins en particulier seraient responsables du mal-être des soignants. J'ai posé la question à notre directeur des ressources humaines en quoi nous pouvions nous améliorer pour faire disparaître ce mal-être qui serait notre grande faute. Mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir de réponse. Par contre, donc, ce que je dénonce, et c'est que, d'accord, nous avons un grand souci de revenir à l'équilibre budgétaire, mais ce ne sont pas les paramédicaux qui sont la variable d'ajustement de cet équilibre budgétaire. Et c'est bien comme ça que c'est perçu sur l'hôpital de Rodez et même reconnu par la direction.
Je précise, l'hôpital de Rodez, c'est Saint-Jacques et les Perrières, voilà.
Oui, oui, sur oui les c'est trois, vrai. Voilà. Vous êtes d'ailleurs, il y a des salariés de l'hôpital de Rodez. Toi-même, Laurent, t'es au Perrières, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, je travaille de nuit au Perrières, oui. Okay, ouais.
Moi, j'ai une question.
Vas-y, Katia.
Dans ce que vous déclariez tout à l'heure, moi, le mot qui me vient un petit peu en tête, c'est quelque chose qui m'évoque beaucoup de la maltraitance, en fait, des personnels. La maltraitance institutionnelle, avec des attaques graves, il me semble, hein, vis-à-vis des salariés, employés, agents que vous êtes, les suppressions de primes, la demande de revenir bénévolement pour pouvoir combler des manques d'effectifs. Enfin, c'est quand même des choses qui sont extrêmement lourdes d'un point de vue du travail, du droit du travail. Je me demandais, est-ce qu'en parallèle, il y a des démarches juridiques, de contentieux? Est-ce que tout ça est légal, en fait, de vous soumettre à ces suppressions de primes, etc.?
Non, mais c'est une
Nathalie.
Question.
Alors moi, je suis fonctionnaire à la fonction publique hospitalière depuis 6 ans. Avant, je travaillais dans le privé, j'ai fait 15 ans dans le privé. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, tu m'aurais dit, tu vas être syndicalisé. Je t'aurais rigolé au nez. Non, mais franchement, quoi.
Ça,
Non, mais franchement, quoi. C'est l'État. L'État a tous les droits. Voilà. Il y a pas, les lois, elles sont pas applicables à l'État. C'est-à-dire que t'es enceinte. On a eu le cas. Ben, moi, ça me choque, en venant du privé. T'es enceinte, tu fais ta déclaration de grossesse, hein. Ça fait 3 ans que tu travailles à l'hôpital. T'es contractuel, hein. T'as un CDD, on renouvelle ton contrat tous les 6 mois, et encore c'est bien, on te fout dehors, on te remercie, on te dit bon mais voilà, passez une bonne grossesse, vous inquiétez pas, on vous reprendra quand vous aurez accouché. Ça c'est l'État, ça c'est la fonction publique hospitalière, c'est comme ça que ça se passe. Bien beau d'avoir un travail, on te dit.
Ça rappelle la conclusion qu'on avait quand on avait fait la spéciale éducation nationale, où on disait effectivement si ça avait été le privé, il serait déjà au prud'homme depuis longtemps. Et d'ailleurs, les pratiques sont les mêmes, quel que soit l'État. Ils s'autorisent des choses qu'on n'autoriserait pas au secteur privé.
Parce que d'où la nécessité de se mobiliser collectivement et très fort pour défendre et des conditions de travail.
Alors David,
c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous auriez une entreprise sur Rodez, la ville ou les alentours, où il se passe 1/10 de ce qu'on a nous sur l'hôpital. Déjà, comme vous dites, on le résume au prud'homme, et tout le monde dirait, ce patron-là, c'est un bandit. Nous, on a les mêmes dans la fonction publique. Sous l'autorité de l'État, on ne peut pratiquement rien faire, parce que déjà, le public, on passe pratiquement tous pour des feignants, des grévistes. Mais à aujourd'hui, quand on sait qu'une personne a fini ses heures de travail, qu'on la rappelle 2 heures après pour revenir, pour être là le matin à 6 heures, on a beaucoup de filles mères seules avec des gamins qui payent une nourrice, qui font plus de 50 kilomètres avec de l'essence. Donc ils sont quand même obligés d'être là. Vous auriez ça dans le privé, on trouverait ça inadmissible. Et nous,
faut
ici...
Il faut pas idéaliser le privé non plus quand même. Hein. Non, parce
que
non.
Existe aussi, hein. Plus carré.
Non, mais il existe aussi dans le privé. Mais on trouverait ça inadmissible, on serait les premiers. Voilà. Et nous, ça se passe sous nos yeux. Et là, ben voilà, donc il faut qu'on subisse ça. Et les agents en ont marre de subir plein de points comme ça.
L'hôpital de Rodez, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est le premier employeur public du département, 1600 à peu près personnes. Vous avez, les syndicats ont fait une estimation de ce qui manque justement comme personnel?
On peut pas le faire parce que les tableaux des emplois qu'il y a à la DRH, c'est un peu compliqué, ne sont pas les mêmes que les effectifs réels qu'il y a en service. C'est-à-dire qu'on arrive à la situation qu'on sait même pas, la DRH sait même pas qui c'est qui travaille réellement en service. Parce qu'ils ont deux outils différents pour... Vous comprenez ce que je veux dire?
Tu veux dire qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont comme effectif? C'est-à-dire qu'ils positionnent des gens sans savoir s'ils travaillent. Oui, d'accord.
Et ça l'arrange parce que ce qui lui, les chiffres qu'il a à la DRH, hein, ils sont un peu mieux que ce qui se passe en service, dans la réalité.
Parce qu'après, nous, de notre côté, fin de juste citoyen ou résident, on est témoin du fait que les gens, ils ont du mal à décrocher les rendez-vous. Enfin, surtout les femmes enceintes, pour aller chez les gynéco, c'est le cauchemar. J'aurais aimé savoir un peu plus tôt que c'était spécial et soin. J'aurais bien fait un truc sur le gynéco. Mais est-ce que vous ressentez cette frustration quand les gens ils viennent en consultation, ou est-ce que ça va quand même de votre côté?
Alors, une réponse, et puis on fera une pause après. Ouais. Qui veut répondre? Qui reçoit du public?
Genre, est-ce que vous ressentez que les gens sont frustrés et qu'ils veulent du changement, et vous pensez qu'ils seront avec vous, ou vous pensez qu'on n'est pas encore au courant de tout ce qui se passe, quoi?
Franck.
Alors là, c'est l'urgentiste qui va répondre et qui reçoit donc les personnes qui ne trouvent pas de praticien. Donc la réponse est oui, le manque de certaines spécialités se fait durement sentir et les personnes viennent donc aux urgences par défaut pour trouver une réponse. Est-ce que nous avons le soutien de la population? La réponse également oui, vu qu'il y a déjà plus de 8500 signatures à la pétition et ce n'est pas terminé.
Christine, non, tu voulais, je te voyais hocher la tête, non, t'es d'accord, voilà. Bon, on va faire une petite pause, on va revenir après sur ce sujet-là. Et on, en tout cas, moi, j'apprends des choses, hein, sur la question des personnels qui existent et qui n'existent pas. On va écouter. J'ai trouvé une derrière les fagots, j'ai trouvé une vieille compile de rock. Et là, c'est un groupe qui vient du Pays de Galles qui s'appelle The Oppressed, qui font une réécriture d'un vieux tube des Who qui s'appelle Substitute.
Ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les
Voilà, vous êtes toujours avec les Roquets Rouges, vous écoutiez The Oppressive Substitute. Allez, on retourne à sa place, on arrête de pogoter, on arrête de danser, on s'assoit, voilà, on se calme.
Mais non, je veux pas m'arrêter de danser, c'était tellement bien ce morceau.
Oui, tu l'as pas écouté, vous êtes juste en train de discuter. Mais c'est très bien.
On est passionnés.
Oui. Et on est toujours avec l'intersyndicale de... Alors, je vais pas dire l'hôpital de Rodez, je vais dire plus qu'il y a plus que l'hôpital, quoi. Il y a les services de soins de Rodez qui sont pas contents. Et à juste titre, on l'a vu dans la première partie de l'émission. Et Amanda, justement, tu avais une très bonne question à poser. Je te la laisse faire. Non.
Oui, en fait, je me suis posé la question. Combien d'années, enfin, juste en chiffres bruts comme ça, ça faisait que vous travailliez tout dans l'hôpitalier, soit à Rodez, autre part, parce que déjà, ça fait 21 ans, quoi. Non, 15 plus 6, vous avez dit tout à l'heure.
Ça fait que 6 ans que j'ai.
Mais à Rodez, mais plus 15 ans dans la privée.
Non, avant j'étais à la privée, mais j'étais pas dans la médicale.
Ouais. Mais de toute manière, moi, je pense que ça pourrait être intéressant.
C'est vrai qu'on peut faire un tour de table, donc si vous le souhaitez, donnez votre, depuis combien de temps vous travaillez, et puis donnez aussi votre secteur d'activité, si vous le souhaitez. On commence par Franck, ça fait combien de temps que t'es là?
Alors, entre le CHU de Toulouse-Rangueil et le centre hospitalier de Rodez, 16 ans.
À côté, Christine?
Alors, moi, je vais faire la plus vieille, donc ça va faire 35 ans.
Félicitations.
Je suis à l'hôpital de Rodez.
Bravo. Voilà.
Tu te... Aide-soignante. Alors, je commençais à SH.
Ouais.
Après, à SH, tu peux dire ce que c'est? Agent du ménage.
Ouais.
Agent
ouais.
De service hospitalier. Et très rapidement, on m'a mis auprès des personnes âgées. Donc, j'ai fait faisant fonction d'aide-soignante pendant 10 ans. Et là, depuis 92, je suis aide-soignante.
À côté, Laurent?
En gros, moi, ça fait 30 ans. J'ai commencé sur Paris à la PHP à Paris, sachant qu'on entend parler de pas mal de choses aussi ouais. Sur les hôpitaux. J'ai été muté sur Nice en maison de retraite, faisais en même temps soins à domicile. Et après, par mutation, je suis parti sur l'Aveyron et ça fera 16 ans que je suis ici.
D'accord.
Je précise avant le métier d'aide-soignant, faisais en fonction à l'armée, au bloc opératoire aussi.
À côté, Rose.
Alors moi, ça fait 20 ans que je suis opérière en tant qu'ASH aux soins et je vois une dégradation de l'hôpital depuis, moi je trouve, depuis à peu près 10 ans. Et là, c'est le summum maintenant, parce qu'on a l'impression de travailler dans une usine.
Nathalie, tu l'as dit, donc 6 ans. David, toi?
Alors moi, je suis agent administratif et je suis rentré comme cuisinier, agent logistique et maintenant donc reclassement ensuite, voilà, des problèmes de santé et ça fait 16 ans que je suis à l'hôpital.
Ok, et Daniel?
Moi je suis rentré, vous compterez, le 15 mars 86 à l'hôpital de Rodez comme infirmier et avant je travaillais à la poste en région parisienne.
Donc ça nous fait 140 ans quand même de travail.
Ah bon. Non, c'est vrai, d'accord.
Donc
nous avons 140 ans de travail.
Mais c'est quand même beaucoup d'expérience, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est pas des, on va dire, c'est pas, voilà, vous êtes pas des petits jeunes qui débarquent et qui sont surpris.
Et
de
qui sont
ce qui se
dégoûtés.
Passe,
en fait, il faut que tu. Voilà. Ah non, c'est pas du tout le cas, loin d'être.
La question qu'on avait avant que tu avais Amanda sur avant la musique, ça me rappelle effectivement, il y avait un reportage sur France Inter la semaine dernière où justement on relevait qu'il y avait de plus en plus d'agressivité dans les hôpitaux. Justement parce que les gens, bah, ils attendent de plus en plus longtemps, notamment aux urgences. Et ben, bah, il y en a certains, bah, et voilà, ils pètent un câble et ils commencent à agresser les personnels qui sont autour d'eux. Et donc, qu'ont décidé les hôpitaux de Paris, non pas de rajouter des postes de médecins ou d'infirmiers, mais de rajouter des postes de vigiles. Voilà. Est-ce que c'est le cas en Aveyron? Non. Bon, apparemment, non. Les gens quand même soutiennent.
De notre côté, ça sert à rien de mettre des infirmières de plus aux urgences, puisqu'il n'y a pas de lit pour mettre les malades après. Voilà. Donc, bon.
Tu disais, Rose,
les malades restent dans les couloirs.
Les malades restent dans les couloirs aussi à Rodez.
Il n'y a pas assez de place.
Vous avez une estimation du nombre de lits qui a été fermé sur une période donnée
Je sais que nous avons 440 lits sur l'hôpital et que l'avenir est à la chirurgie ambulatoire, ce qui signifie que des lits d'hospitalisation complète vont être fermés, mais je ne connais pas le nombre prévu actuellement.
Donc, pour clarifier, un lit fermé, c'est une chambre vide avec personne dedans, mais qui aurait pu accueillir quelqu'un parce que c'est quand même un lit qui existe.
Un manque de soignants.
C'est juste qu'il n'y a pas le personnel qui en...
Non,
c'est quoi un lit fermé?
Non, dans le cas présent, donc c'est une transformation de lit d'hospitalisation complète qui fonctionne nuit et jour en un lit d'hospitalisation de jour pour faire, par exemple, la chirurgie ambulatoire. c'est bien pour les patients qui vont venir pour se faire opérer et qui repartent le jour même. C'est l'évolution de la médecine qui permet cela. Mais par contre, pour les patients qui ont besoin d'un lit d'hospitalisation, eh bien, on aura de plus en plus de difficultés à trouver un lit pendant la nuit et des personnes, et de plus en plus de personnes resteront sur des brancards aux urgences en attendant qu'un lit se libère quelque part.
Et excusez-moi, est-ce que vous pensez que dans les pouvoirs publics, tout ça, est-ce que c'est possible que, mettons, ils se disent on va faire exprès de laisser tomber l'hôpital public en lambeaux pour faciliter derrière la reprise par du privé, parce que je pensais par exemple à la clinique de l'Union qui a été rachetée. Enfin, je veux dire, j'imagine que quand un hôpital, plus un hôpital va se péter la gueule, plus ce sera facile derrière pour des gros groupes voilà, de la santé de les récupérer à bas prix avec des employés qui seront déjà habitués à des conditions très dégradées.
Sur le centre hospitalier de sur Rodez et dans notre département, cela va être difficile parce qu'il n'y a pas de clinique privée qui pourront le faire dans de grands hôpitaux. Et je pense entre autres au CHU de Rangueil. Effectivement, de plus en plus d'actes financièrement intéressants se feront dans les cliniques. Et par contre, les complications derrière seront prises en charge dans les hôpitaux publics, mais pas à Rodez.
Oui, les bénéfices au privé, oui. Voilà,
quoi. On fait quand même de plus en plus de privés à l'hôpital de Rodez. Ça, il faut le souligner. C'est-à-dire que les chirurgiens, les praticiens privés, il y en
qu'est-ce
a de plus en plus.
Qu'est-ce que tu appelles du privé hein,
mais c'est-à-dire qu'ils ont des plages horaires pour opérer dans le privé. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a repris la clinique de Saint-Louis, un chirurgien, il donne un pourcentage de ce qu'il gagne tous les mois à l'hôpital. Il reverse un pourcentage. Ce qu'on a repris de la clinique de Saint-Louis, il reverse moins qu'un chirurgien HP à l'établissement. C'est-à-dire que pour le même personnel, la même salle, la même intervention, ils vont reverser moins à l'établissement. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'hôpital public se fait bouffer par les praticiens privés. Et ça, c'est une réalité à Rodez.
Et c'est, j'imagine que c'est, le coût est pris en charge par la collectivité.
C'est tout à fait.
Voilà. Amanda, t'avais une question, je te vois.
J'allais juste dire qu'on parlait des vigiles dans les urgences, et les vigiles, ça doit être moins cher à payer qu'un médecin, quoi.
Oui, mais ça serait moins bien.
Pourquoi pas mettre que les vigiles à l'hôpital, et on fait une sorte de Hunger Games, où tout le monde qui est malade, il vient, et ceux qui survivent, survivent. Et ceux qui ne survivent pas, ben, désolé, mais il fallait être plus fort, quoi.
Quand je parlais tout à l'heure qu'il y a une...
Tu as voté, toi, la semaine dernière, c'est ça?
Il y a une vision différente entre les Européens et les Américains.
Je l'aurais dit.
Bon, j'ai lu que vous avez quand même rencontré différentes personnalités. Vous avez rencontré hier, je crois, le préfet, c'est ça? Et aujourd'hui, vous aviez une réunion avec la direction. Alors,
une réunion de négociation.
Alors, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avec le préfet, déjà. Déjà, on se demandait avec David, qu'est-ce qu'il a à dire, le préfet? Quelle autorité il a à dire dans la gestion d'un hôpital public?
Il n'en a aucune.
D'accord.
Il n'en a aucune, si ce n'est qu'il peut le faire remonter à notre tutelle, à l'ARS. Si ce n'est que ça aussi, ça peut le toucher aussi, puisque donc on est le deuxième employeur de la ville. Que sur le bassin d'emploi, sur le département, c'est pas rien. Voilà, donc après...
c'est plus par rapport au patient. On a été voir le préfet dans la démarche de l'interpeller par rapport à la prise en charge du patient. C'est-à-dire que cet été, il y a deux patients qui ont fugué quand même à l'hôpital de Rodez, dont un qui s'est soldé par une noyade quand même. Donc c'est plus, on a été le voir dans une démarche qu'ils prennent conscience qu'il y a des patients à Rodez qui sont pas bien pris en charge et qu'il y a des soucis par rapport à la prise en charge du patient à Rodez. Parce qu'il en est, responsable, c'est de sa responsabilité de protéger sur le sol aveyronnais les patients.
Et il sert réellement de médiateur.
D'accord.
Entre les hospitaliers et l'ARS, voilà.
Et avec la direction, je voyais dans ce centre presse de mardi que finalement le directeur lui aussi se plaignait que l'hôpital était endetté à hauteur de 82 millions d'euros. Est-ce qu'il a aussi un pouvoir? Il peut faire quelque chose? Il peut bouger, lui?
Oui, il peut taper sur les petits personnels.
Voilà, tu nous disais, il peut taper sur le petit personnel.
Et est-ce que le maire vous soutient en étant le deuxième employeur de la ville?
Je sais pas. Non.
Voilà. Monsieur Tessier, si vous nous écoutez.
Il faut surtout qu'on compte sur nous plutôt que de compter sur les politiques. Il me semble qu'en 2012, on avait beaucoup compté sur certaines personnes et puis que on a été déçus. Donc il faut compter sur soi.
sachant qu'il y a les élections qui arrivent, je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont venir nous voir, voilà.
Mmh. Oui, c'est vrai, il faut en profiter.
Oui, mais que dans tous les programmes qu'ils annoncent, toutes ces belles personnes, il faut supprimer les fonctionnaires.
Eh oui, il y a trop de fonctionnaires.
Et c'est dommage, mais nous sommes des fonctionnaires, oui, hélas.
Bien vu,
ouais. Voilà. Donc, on a bouclé la boucle.
Sachant que, je dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est 22 000 emplois qui vont enlever sur toute la France. Mmh.
Dans la santé.
Oui, Marisol Turol a annoncé ça. Voilà.
C'est dommage qu'il faille attendre des attentats pour qu'on pense à la santé.
C'est vrai que.
Et à notre travail.
Même aux fonctionnaires.
Il y avait un poste qui était passé où on voyait une image au moment des attentats de Nice où il y avait un policier, il y avait un urgentiste qui était là, il y avait un médecin, il y avait des pompiers et on disait et là vous pensez qu'il y a trop de fonctionnaires et effectivement t'as tout à fait raison On va faire une petite pause musicale encore et puis on revient pour la dernière partie des Roquets. C'est moi qui ai choisi la musique.
T'as trouvé un vieux CD derrière ton canapé.
Oui, c'est le même.
C'est la musique.
Mais j'aime bien, c'est un chanteur basque que j'adore qui s'appelle Fermin Muguruza, qui est un copain de Manu Chao. Et là, il fait une chanson qui a quelques années déjà qui s'appelle Noloz et qui parle du Kurdistan. Et c'est d'actualité aussi. Quoi. Mais c'est en basque, vous comprendrez rien. Nous revoilà sur CFM Rodez 107.9 dans l'émission des Roquets Rouges avec l'intersyndicale de l'hôpital de Rodez, mais aussi des maisons de retraite des Perrières, c'est ça, et de Saint-Jacques. Ouais. Super débat.
Un petit rappel, c'est-à-dire que c'est tout le personnel, c'est 1600 personnes qui sont en grève. Les problématiques se retrouvent dans les trois sites qui appartiennent à l'hôpital de Rodez.
Voilà.
Enfin, les trois sites, même plusieurs, puisque nous avons la pédopsie, à Oulens, nous avons l'école Viala, c'est pareil. Toutes ces problématiques se retrouvent pareil.
Géographiquement, mais aussi hiérarchiquement. C'est-à-dire que tous les personnels, quelle que soit leur strate hiérarchique, sont concernés. Et donc, comme disait tout à l'heure M. Becker, c'est aussi les médecins. Mmh. Ce qui est relativement inédit quand même dans la maison et ce qui est très révélateur pour nous.
C'est significatif quand même, une crise profonde. Ouais. Ouais.
Donc, juste pour faire le point vite pour les auditeurs qui viennent nous joindre, peut-être ça passe à la radio et ils écoutent ça. Donc, vous êtes en grève ou vous n'êtes pas en grève? Parce que moi, j'avais compris qu'on était en négociation. Là.
Oui.
Et ça pourrait passer en grève.
Ça va. Ou pour l'instant, les agents que nous avons rencontrés après notre entrevue avec le directeur ont voté pour la grève. Hein.
Bon. Et quand on est en grève, est-ce que c'est vrai qu'on reste sur le canapé, on regarde Secret Story et on mange les chips et tout ça?
Justement.
Parce que ça a l'air génial.
Justement, je voulais rassurer tous les patients potentiels. Ils seront pris en charge de manière quasiment identique, la grève étant la mise en place d'un brassard noir sur nos blouses. Et donc, ils n'ont pas à craindre d'être mal soignés quand ils viendront pendant la grève. Et j'en profite pour exprimer mon admiration pour l'empathie dont font preuve nos infirmiers, nos aides-soignants, malgré leur souffrance personnelle.
On mettra en lien sur la page des Roquets Rouges la pétition, ça vous fera 10 signatures de plus. Et pour l'instant, Katia avait aussi une chronique à nous proposer. Elle est en lien, je crois, avec l'émission.
Un petit peu.
Allez, oui. On t'écoute.
Bon, alors pour commencer, je voudrais vous annoncer une magnifique nouvelle qui va vous ravir. Cette fois-ci, c'est cadeau. Ma chronique sera très courte.
Oui,
je vous le jure, je peux le faire. Bien que la synthèse ne soit pas effectivement ma plus grande qualité, je m'en excuse platement à toi, auditeur, qui t'endors en écoutant mes chroniques, et à toi, Roquet Rouge, qui a eu le temps de lire l'intégrale du Canard Enchaîné pendant que je déblatère.
Heureusement, Romain l'amène tous les semaines.
Pardon, et cette fois-ci, ce sera court.
C'est vrai?
Non, mais que c'est fini.
C'est pas vrai.
Non, mais non, non, je déconne. Un peu plus quand même. Juste deux mots. De plus, pour vous expliquer la genèse, en tout cas celle qui me concerne, de cette émission avec nos invités mobilisés de l'hôpital de Rodez. Il y a une semaine, j'étais comme d'autres un petit peu bloquée au rond-point du mail à midi. Enfin bloquée. Faut relativiser quand même. Bloqué à Rodez un jour de manif aux heures de pointe, ça dépasse pas non plus les 10 à 15 minutes de retard sur ton rendez-vous kebab. Alors là, me voilà presque arrivée au rond-point et la dame qui me tend le prospectus s'approche de moi et à ce moment-là, je la sens presque craintive et elle s'excuse très gentiment pour le dérangement en m'expliquant que le but est de défendre le service public hospitalier quand même. Je lui réponds de ne pas s'excuser, que je suis de tout cœur avec eux, avec vous, et que vous avez bien raison de vous mobiliser et qu'en fait c'est plutôt moi qui m'excuse parce que plutôt que de rester au volant de ma voiture, j'aurais aussi pu me garer et vous rejoindre. La dame me dit alors un grand merci, qui à ce moment-là est un peu tentée de soulagement. Je pense que la voiture juste devant moi, elle avait dû ramasser. Un peu plus tard, je finis donc par dévorer ce kebab retardataire, en terrasse, face au mail. Au mail, je sais pas comment ça se dit, au rond-point de Bourg.
On me dit toujours mail.
Au mail.
Un mail, ouais.
Et face aux voitures bloquées, que dis-je, ralenties, descendant de l'hôpital, quand tout à coup, je vois et j'entends un homme sortir de son véhicule, rouge vif, et se mettre à hurler en faisant de grands gestes et en criant sous mes yeux « Putain, vous faites chier, c'est pas bientôt fini les conneries, il y en a qui bossent dans ce monde, merde !» Alors là, je me dis, j'ai rien compris à la manif. C'est pas la défense du service de santé, ça doit être une manif de rentiers, d'évadés fiscaux, de traders. C'est le contenu de ces mots qui m'a alerté. Conneries, il y en a qui bossent, forcément j'avais pas dû comprendre. Et non, j'ai été vérifiée, aucun évadé fiscal à l'horizon, que des agents hospitaliers, que des slogans pour des moyens à l'hôpital, qu'une envie de soigner correctement les patients. Bref, des gens qui bossent quoi. Des gens qui soignent, qui nous soignent, tous, nous-mêmes, nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues. Et là je me suis dit quand même, c'est dommage. Nous diviser avec colère alors qu'il s'agit là d'un combat pour le coup, mais évidemment universel. Non mais c'est vrai. Qui n'aspire pas à être en bonne santé? Faisons un test. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'aspire pas à être en bonne santé?
Romain
Au Benjamin, il est parti.
Il y a des désespérés comme Baudelaire ou des gens un peu noirs, un peu sombres. Mais...
Bon. Ok. Est-ce que il existe des gens qui n'aspirent pas à retrouver une bonne santé quand ça va pas? Qui n'aspirent pas quand ça va pas à être accueillis, écoutés par des personnels qui ont le temps,
et les moyens de nous aider. Bon, ben voilà, personne. Donc, je me suis dit que si manifestement ça, ça n'est pas a priori évident pour tout un chacun, et même parfois ceux qui précisément en viennent de l'hôpital, parce qu'à cet endroit-là, ce monsieur tout rouge, il y a fort à parier qu'il venait de l'hôpital. Alors, ou sinon du magasin de jeux de société à côté, mais à 12h45, non, quand même, il y a peu de chance. Donc, si ça paraît pas évident de partager le combat qui s'affiche en blanc sur le bitume, alors il faut en parler de ce combat, plus encore. Il faut expliquer, partager, diffuser, et pour cela, merci d'être venu au Requet ce soir. Et merci à toi, monsieur en colère tout rouge dans ta voiture, parce que grâce à toi, il y aura peut-être des milliers d'auditeurs ce soir qui vont pouvoir écouter les aspirations de ces gens qui bossent au service de notre santé. Et je finirai juste par une question. Moi, j'aimerais savoir comment nous, qui ne sommes pas agents publics hospitaliers, comment on peut vous soutenir, vous rejoindre, comment on peut faire masse avec vous. Et voilà, est-ce qu'il y a des appels à venir pour la population, pour les patients que nous sommes, parce que nous sommes tous des patients.
Qui veut répondre? Et puis moi aussi, j'aurai une autre question après. Merci. Ah, il reste 2 minutes.
Déjà d'aller signer la pétition.
Alors, comment on peut aider? Il y a la pétition en ligne. Où est-ce qu'on peut la trouver?
Sur www.mesopinions.com, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Et prends un exemple. Quand on a fait la manifestation sur le mail, l'autre jour, il y a un monsieur, ça devait être un artisan, qui spontanément s'est arrêté. Et il a mis sa voiture en travers la route. Mais on s'est même fait engueuler parce qu'on n'était pas là pour bloquer. On s'est fait même gronder par des collègues qui nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Mais c'était un usager qui s'arrêtait et qui, pendant 20 minutes, il est venu nous voir, il a discuté avec nous et il a dit, mais moi, je vous soutiens, je suis artisan, j'ai 60 balais et voilà, je vais bloquer. Il a bloqué 20 minutes avec nous. C'était super.
Bon alors, bon, j'aurais voulu qu'elle dure une demi-heure de plus ou une heure de plus cette émission-là, mais j'avais encore une question, alors de façon plus générale sur votre métier. On va faire un tour de table. Bon, elle est un peu con cette question, mais est-ce que vous aimez votre métier? Est-ce que si c'était à refaire, vous referez la même chose? Ou est-ce qu'il faut fuir vraiment cette profession-là, quoi? Franck?
La réponse est sans hésitation, je ne me vois pas faire aucun autre métier.
Christine?
Moi non plus.
Oui, c'est
je ne sais rien faire d'autre, mais en plus, c'est... voilà, est-ce que t'as envie, mais c'est le... On ne fait pas ce métier si on ne l'aime pas. Mmh. C'est prendre soin des autres. Et je voulais aussi signaler que les deux manifestations où on a bloqué, ce n'étaient que des gens en repos.
C'est pas en grève, rien du tout.
Jusque-là, tout le temps, c'est toujours sur nos repos. Et puis, même si quand on sera en grève, il faut savoir qu'on est toujours au service minimum.
C'est vrai que
donc
c'est
on sera tous assignés, on ne peut pas faire grève. Mmh. Donc c'est pour ça que vous aurez le même personnel. Un jour de grève... un jour de non-grève. Est-ce et que les gens qui sont dans la rue, c'est sur leur temps de repos ou après leur poste de travail.
Donc ils bossent encore plus finalement quoi, quand il y a grève. Quoi.
Donc la bande noire, c'est quelqu'un qui est en grève, qui n'est pas payé mais qui vous soigne. Les gens dans la rue, c'est des gens qui sont au repos mais qui ne se reposent pas parce qu'ils ont besoin de faire grève. Enfin... Vous vous reposez dommage. Quand, quoi?
C'est presque dommage ce service minimum parce que du coup, les gens, ça, c'est sûr que pour les urgences vitales, qu'il y ait un service minimum encore, bon, passe. Mais je veux dire, pour les bobos un peu moins vitaux, presque, il faudrait que vous puissiez ne pas faire ce service minimum parce que ça bloque pas assez, quoi. Là, peut-être les gens, ils s'en apercevraient, quoi. Peut-être qu'ils vous soutiendraient un peu plus.
Et c'est parce que nous sommes au service minimum et que là, avec toutes ces absences et toutes ces suppressions de postes, cela devient critique. C'est bien pour ça que nous sommes dans la rue.
Bien sûr.
C'est parce que on peut plus travailler en deçà du service minimum.
Rappelons-le, vous mobilisez, c'est pas pour vous mobilisez finalement, c'est pour les patients, c'est pour la qualité du service, c'est pas pour des prérequis, des acquis sociaux. Enfin finalement là, on est au-delà de ça quoi. Et c'est le cas dans beaucoup de secteurs publics quoi. C'est vraiment pour l'intérêt public.
C'est la grandeur et la servitude du service public.
Exactement.
Je veux dire, et ça, même dans la grève, je pense que dans la mesure où on choisit de travailler dans un établissement public, c'est que on a des valeurs. Ces valeurs sont les valeurs du service public, enfin, à la française, quoi, enfin. Et, enfin, moi, j'imaginais pas travailler ailleurs que dans un établissement public, mais, je pense qu'il faut l'accepter. mais ça n'autorise pas tous les droits. Moi, du temps où EDF était un service public, en 2000 encore, on l'a vu quand il y a eu les grandes tempêtes, ben on peut venir retirer notre chapeau. Du temps où la Poste était encore un service public, ben je rendais vraiment des services au public et on laissait pas traîner une petite vieille à essayer de tenir un stylo. L'employé se faisait pas engueuler parce qu'il donnait un coup de main à la petite vieille pour remplir ses formulaires. C'est devenu ça, le service public. Et c'est ça qu'on refuse. Parce que, quelque part, le sort des fonctions, appelons-les comme ça, parce que c'est notre nom après tout, le sort des fonctionnaires, le sort qui leur est fait, eh bien, il est indélébilement lié au sort des usagers. Hein. Les misères qu'on nous fait, eh bien, on les retrouvera dans quelques temps.
C'est vrai, c'est un investissement aussi sur l'avenir, tout ça. On doit terminer là. Amanda, tu avais juste une date de
manif. Je vais l'ajouter au cas où. Il reste 30 secondes. Bon, il y a un concert en soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes le 14 octobre. Rendez-vous à la ferme collective de Cussac. Commune de Pruines, à partir de 19h, prix libre.
Ok, merci. On se dit à dans 15
jours. Patient, mets ton brassard noir à partir de demain.
Voilà, allez, ciao.
Ciao.
Salut.
Merci. Il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on dit, on raconte pas sa vie.
Ah, qu'est-ce qui se passe ?
Cessez d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
There's a war going on outside.
Say what?
Oh, no.
Les Roquets Rouges sur CFM.